Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui. Eric Manelakidza avec vous. D'abord, les titres de cette édition de ce lundi 5 août 2019. Le chef du mouvement islamique au Nigeria, Ibrahim Zakzaki, autorisé de se faire soigner à l'étranger dans le centre du Mali. Dogon et Apple ont conclu un accord de cessez-le-feu à Djéné. En Libye, une quarantaine de civils tués dans un raid aérien sur une ville du sud. Campagne au Bénin pour mettre fin aux inégalités entre les genres.
J'espère vraiment que ce sera une campagne qui va nous permettre d'améliorer la situation des filles au Bénin et également dans l'Afrique.
Le président américain Donald Trump a condamné le racisme et le suprémacisme blanc après deux fusillades meurtrières ce week-end. Également au programme, vos rubriques habituelles, la Minute Éco et les sports dans 10 minutes. Dogon et Apple ont décidé de fumer le calumet de la paix. Ils ont signé un accord hier à Djéné en présence du Premier ministre Bobo Cissé. Cet accord devrait permettre de recoudre le tissu social et favoriser la libre circulation et le vivre ensemble. Les acteurs directement concernés décident de tout mettre en œuvre pour le respect du document de Djéné. Les précisions de Mamoudou Bokoum.
Ce coup de stylo des communautés Peuls et chasseurs appelés Dozo du cercle de Djéné devant un parterre de personnalités reste gravé dans la mémoire des Djénékés. Il s'agit là de matérialiser l'accord issu d'un long processus de dialogue entre les protagonistes. Éleveurs et chasseurs ont décidé donc de se donner la main pour que la paix revienne dans leur zone. Avec la signature de ce document, chacun de nous peut vaguer à ses affaires sans crainte, a déclaré Sinali Maïga, un des responsables des Dozo. Avant, on ne pouvait même pas aller satisfaire ses besoins à un kilomètre de son village. Mais maintenant, ceci est un triste souvenir, ajoute-t-il avec un sourire aux lèvres. Des personnes se sont sacrifiées pour obtenir cet accord. Parmi elles, il y a Ibrahima Cissé, un peul d'une cinquantaine d'années pour qui c'est une chance d'être en vie pour expliquer l'après-conflit. Selon lui, grâce à cet accord, des foires hebdomadaires ont repris et chaque citoyen de la zone peut circuler partout où il veut, a-t-il précisé. Les deux parties s'engagent à faire front commun pour le respect intégral et strict du contenu de ce document. Le Premier ministre Bobo Cissé, qui présidait la cérémonie de signature, s'est dit fier de cet acte qu'il qualifie de patriotique. Selon les chefs de gouvernement, le chemin de tout développement passe par la paix et la stabilité. Mamoudou Bokoum de retour de Djéné pour VOA Afrique.
Au Nigeria, une haute cour fédérale dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays, a accordé au chef d'un mouvement islamique chiite au Nigeria une libération provisoire sous caution, lui permettant d'aller se faire soigner à l'étranger. Le leader du groupe des chiites est en détention depuis 2015. Les détails de Gilbert Tamba.
La haute cour fédérale de Kaduna demande au gouvernement fédéral de libérer le chef du mouvement islamique au Nigeria, Cheikh Ibrahim Zakzaki, et son épouse, afin qu'il puisse se faire soigner en étranger. Le tribunal a également ordonné que Zakzaki soit accompagné à l'étranger par des agents du département de la sûreté de l'État ainsi que par d'autres responsables du gouvernement de l'État de Kaduna. Le dirigeant des chiites et son épouse ne doivent pas quitter les locaux de l'hôpital Mandeta à New Delhi en Inde où ils doivent recevoir des soins médicaux jusqu'à leur rétablissement total avant la reprise de son procès. Ibrahim El Zakzaki est accusé de tentatives d'assassinat et d'atteinte à l'ordre public après des affrontements meurtriers entre ses partisans et les forces de sécurité en décembre 2015. Des membres de son organisation, le mouvement islamique au Nigeria, manifestent quotidiennement dans les rues d'Abuja pour réclamer sa libération. Selon des informations, le leader des chiites a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux et serait en train de perdre la vision.
Selon Human Rights Watch au Cameroun, des soldats du bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée déployée dans une région anglophone du Cameroun, ont tué un homme de 43 ans atteint de déficience auditive et de handicap mental parce qu'il ne répondait pas à leurs questions. C'était le 5 mai dans le village d'Ontamrou, dans le nord-ouest. Des milliers de Guinéens ont assisté aujourd'hui à l'inhumation dans son village natal de l'enseignant-chercheur Mamoudou Bari, victime le 19 juillet en France d'une agression raciste. Mamoudou Bari, 31 ans et père d'un enfant de 2 ans, est mort des suites de ses blessures après avoir été roué de coups dans la rue lors d'une agression à Quintelleux dans la banlieue de Roanne dans l'ouest de la France. L'Organisation internationale pour les migrations a ouvert un nouveau centre à Niamey où des enfants migrants non accompagnés des familles seront hébergés en attendant d'être rapatriés dans leur pays d'origine. En Côte d'Ivoire, l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel. Trois groupes parlementaires de l'opposition veulent la modification de la loi sur la réforme de la commission électorale indépendante adoptée la semaine dernière par l'Assemblée nationale, malgré les protestations. 10 personnes ont été tuées en 2 jours dans des attaques attribuées aux miliciens musulmans ougandais des forces démocratiques alliées à l'ADF dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, les activités ont été paralysées pendant plusieurs heures à Eringeti pour protester contre ces tueries. L'Ouganda a annoncé aujourd'hui avoir commencé à tester un vaccin expérimental contre Ebola qui pourrait être utilisé dans la RDC voisine. Le journaliste d'investigation tanzanien Eric Kabendera a été inculpé aujourd'hui de crimes économiques une semaine après son arrestation. Monsieur Kabendera, 39 ans, travaille pour des médias nationaux et étrangers et il a publié plusieurs analyses critiques de la vie économique et politique de la Tanzanie sous la présidence de John Magufuli. En Libye, au moins 42 civils ont été tués dans une frappe aérienne dans le sud du pays. Les forces du maréchal Khalifa Haftar sont soupçonnées. Claire Morin-Gibourg.
La frappe aérienne sur la ville de Morzouk a été confirmée par le gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli. La frappe a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils et le GNA accuse les forces rivales du maréchal Khalifa Haftar. Selon Ibrahim Omar, membre du conseil municipal de Morzouk, 3 frappes ont visé dimanche un bâtiment gouvernemental où étaient réunies plus de 200 personnes, des notables et doyens de la ville, pour régler des différends sociaux. Il a confirmé que ces bombardements ont fait 42 morts, plus de 60 blessés, dont 30 dans un état grave. Les forces du général Haftar contrôlent la ville de Morzouk depuis février, mais se heurtent à l'hostilité de la population. Ce raid a eu lieu alors que des combats pour le contrôle de Tripoli se poursuivent depuis début avril.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a affirmé aujourd'hui que la collision entre plusieurs voitures au Caire ayant fait au moins 20 morts était un acte terroriste. Une voiture roulant à grande vitesse a percuté 3 autres véhicules, provoquant une énorme explosion dans la nuit de dimanche à lundi, peu avant l'aube. Et la marine royale marocaine a secouru dans la nuit de dimanche à lundi 424 migrants qui naviguaient à bord de plusieurs embarcations de fortune dans l'espoir de rallier l'Espagne. La plupart de ces migrants interceptés sont originaires du sud du Sahara. Il y avait parmi eux 53 femmes et 16 mineurs.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Week-end meurtrier ici aux États-Unis avec 2 fusillades qui ont fait au total 31 morts et des dizaines de blessés. Le bilan reste provisoire. Ce matin, le président Donald Trump a, dans une adresse à la nation, vivement dénoncé le racisme et le suprémacisme blanc. N'est-ce pas, Abdulrahman Dia?
La haine n'a pas sa place en Amérique. La nation doit condamner le racisme, le sectarisme et le suprémacisme blanc. Le président Donald Trump, le visage ferme, a mis en relief la fréquence des fusillades aux États-Unis. Alors que les démocrates appellent à un renforcement de la législation sur les armes à feu, le président s'est dit ouvert à la discussion, mais pointe du doigt la santé mentale et la haine des auteurs de ces violences.
Nous devons réformer nos lois sur la santé mentale pour mieux identifier les personnes dérangées susceptibles de commettre des actes de violence. Et nous devons veiller à ce que ces personnes bénéficient non seulement de traitement, mais aussi, si nécessaire, d'un internement involontaire. La maladie mentale et la haine sont appuyées sur la gâchette, pas le pistolet.
Le locataire de la Maison Blanche a aussi dénoncé l'idéalisation de la violence à travers Internet. Avant son discours, le président a, dans plusieurs tweets ce lundi matin, appelé à une meilleure vérification des antécédents des acheteurs d'armes à feu, une mesure qu'il veut coupler à une réforme sur la migration. Une idée qu'il n'a pas réitérée lors de son allocution, mais qui est déjà rejetée par plusieurs démocrates.
Vladimir Poutine a mis en garde contre la relance d'une course aux armements illimitée après le retrait de Moscou et de Washington d'un traité de désarmement nucléaire de portée intermédiaire. Il appelle les États-Unis à un dialogue sérieux pour éviter le chaos. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la minute éco signée Namit Sylvanie Talani.
La Namibie a inauguré un nouveau terminal portuaire de 40 hectares à l'ouest de sa capitale. Un terminal d'une capacité de 350 000 à 750 000 containers par an, avec la possibilité de dépasser 1 million dans l'avenir. Cette plateforme est appelée à devenir une porte d'entrée stratégique vers les marchés émergents d'Afrique australe et occidentale. Elle a été construite par une compagnie publique chinoise avec des fonds du gouvernement namibien et de la Banque africaine de développement pour 265 millions d'euros. L'explorateur de gaz et de pétrole Kosmos Energy conclut un accord avec la Mauritanie et le Sénégal. Il pourrait céder d'ici la fin de l'année sa participation dans des projets au large des côtes mauritaniennes et sénégalaises dans lesquels il est partenaire de British Petroleum. Parmi ces projets figure le développement du grand gazier tortue Ameim entre les deux pays d'Afrique de l'Ouest. Il produira 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Le champ contient environ 15 000 milliards de pieds cubes de gaz. Terminons par le Zimbabwe qui a augmenté les prix de l'essence et du diesel de 26%. L'autorité de régulation de l'énergie a déclaré que l'essence coûterait désormais 9,01 dollars zimbabwéens et le diesel coûterait 9,06 dollars zimbabwéens. Les prix du carburant ont été multipliés par 4 depuis juin et de plus de 500% cette année en raison de la dépréciation de la monnaie locale. La demande en carburant a également augmenté car les entreprises utilisent des générateurs diesel en raison de coupures d'électricité de 18 heures par jour.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Nous recevons Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football pour commencer avec le premier tour retour des éliminatoires du CHAN Cameroun 2020.
Oui, le Mali a remis le couvert hier au stade Modibo Keïta de Bamako face à la Guinée-Bissau, 3-0, après l'avoir déjà battu 4-0 à l'aller. Écoutons le coach des aigles locaux, Noun Diané.
Après le match aller, on a été clair avec les joueurs. Ici, c'est un autre match qu'on allait jouer. Je pense que sur ce match-là, je marquais 3 buts. Et 3 buts, je n'ai pas de plus satisfait quand même, mais je pense que c'est satisfaisant par rapport à tout ce qu'ils ont fait.
Les Bissau-Guinéens se disent surpris par la qualité de l'équipe malienne, comme le dit l'un de leurs joueurs, Tony Da Silva.
Nous ne connaissons pas l'équipe malienne, il n'y a pas de championnat au Mali, donc c'est difficile de connaître l'équipe. Voilà, on a essayé à la maison chez nous, on était surpris parce qu'on ne connaissait pas l'équipe, on ne sait pas comment le Mali joue. La Guinée-Bissau va travailler pour pouvoir revenir à un bon niveau. Non, pour les deux matchs, le Mali était physiquement en place que nous.
Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant au Mali.
Et désormais, toutes les affiches du dernier tour sont connues.
Dans la zone nord, il y aura un duel maghrébin entre le Maroc tenant du titre et l'Algérie. Dans la zone ouest A, le Mali fera face à la Mauritanie et le Sénégal jouera la Guinée. Dans celle ouest B, on aura Togo, Nigeria, Niger, Côte d'Ivoire et Ghana, Burkina Faso. Dans le centre du continent, la Centrafrique fera face à la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale défiera l'autre Congo. À suivre aussi Burundi, Ouganda et Éthiopie, Rwanda.
Et on parle du cyclisme avec le Tour international de la RDC.
Nous retrouvons tout de suite sur les routes du Tour Genovitch-Mboa de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après 220 km de course, pas de changement au classement général. Le Rwandais Jean Bosco Roubérois est toujours en jaune au terme de la deuxième étape, comprise entre Mbanzangungu et Kasangulu. Une étape remportée hier dimanche par le Français Gabriel Roger Anthony, après avoir pédalé pendant 2 heures 29 minutes, soit une moyenne de 38,2 km par heure. Mais cette deuxième étape a connu une fin tragique avec la chute d'un groupe des sprinteurs dû au dos d'âne, se trouvant à quelques mètres de la ligne d'arrivée, occasionnant des blessures graves. On écoute le mécontentement de Francis Ducreux, directeur du Tour.
On dit une chose et chacun fait à sa façon. Et je dis que là, il y a une erreur monumentale. Il y a beaucoup, beaucoup de blessés. Ça n'existe pas de faire une arrivée en descente dans n'importe quelle course au monde.
A noter que 3 des cyclistes gravement blessés sont out pour les prochaines étapes qui auront lieu ce mardi dans le Grand Katanga. D'abord, celle qui sera comprise entre Lubumbashi-Likasi, longue de 120 km, puis celle entre Likasi et Kolwezi, longue de 180 km. De Kinshasa, Genovic Mboa Mbaya, VO Afrique.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo. Merci Yacouba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manelakiza, nous abordons les dossiers du jour. Après des mutineries dans des prisons de Yaoundé et de Boya, le système pénal camerounais continue d'être sous le feu des critiques. Et pour répondre à ces préoccupations, le gouvernement envisage des réformes dans le code de procédure pénale. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Jultap.
Les propositions sur la réduction des lenteurs judiciaires sont les plus attendues par le ministre de la Justice. Elles sont d'après lui d'extrême urgence, comme mentionné dans sa correspondance adressée au chef de cour d'appel en juillet dernier. Jean-Claude Fognon, secrétaire exécutif de l'ONG Mandela Center, un organisme de défense des droits de l'homme et d'assistance judiciaire, pense que l'initiative du ministre survient un peu tardivement.
Le ministre est au courant tous les jours de tous les blocages. Chaque fois que nous le saisissons pour des cas pratiques, le ministre ne se prononce pas. Il y a la réunion des présidents des cours chaque année. Au cours de ces réunions, toutes les difficultés que les magistrats rencontrent sur le terrain sont exposées au ministre. Donc il est suffisamment imprégné de ce qui se passe dans toutes les unités, que ce soit même dans les prisons.
C'est justement dans les prisons de Yaoundé, dans le centre, Boya dans le sud-ouest, qu'une colère est montée le mois dernier et a engendré deux mutineries. Les prisonniers ont protesté contre les lenteurs judiciaires et la surpopulation carcérale. Le cabinet Futur Afrique a publié le mois dernier une étude nationale sur la justice pénale au Cameroun sous la coordination du docteur Hilaire Kamga.
Il y a la lenteur judiciaire et la surpopulation carcérale au Cameroun parce qu'il y a un déficit d'infrastructures. La charge de travail qui est donnée aux magistrats dans les différents tribunaux de première et de grande instance ne permet pas qu'ils résolvent avec la célérité suffisante les centaines de dossiers qui leur sont mis à disposition. Le deuxième problème est que la présomption d'innocence a cédé la place à la présomption de culpabilité au Cameroun.
Le code de procédure pénale promulgué en juillet 2005 a par exemple fixé les délais de la garde à vue à 48 heures, renouvelables une seule fois. Un ancien détenu, interpellé à Douala au cours d'une marche politique, puis écroué à la prison centrale à Yaoundé, témoigne avoir vécu le contraire lors de sa garde à vue.
On a passé presque deux semaines au GESO, qui est un groupement spécial police, sans que l'un de nous puisse entrer en contact avec sa famille.
À cause de la non-application du code de procédure pénale, le nombre de détenus en attente de jugement est croissant dans les prisons du Cameroun, selon Jean-Claude Fognon de l'ONG Mandela Center.
Parfois, une affaire peut durer 4 ans, 5 ans au niveau d'une cour d'appel, alors qu'en principe, il avait juste 6 mois renouvelables, une seule pour ces cas de délit.
Vendredi dernier, le ministre de la Communication a annoncé la volonté du gouvernement d'accélérer les procédures judiciaires. René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, au cours d'une déclaration à la presse.
Le président de la République a prescrit au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue d'accélérer les procédures judiciaires en cours, de procéder à un désengorgement des différents établissements pénitentiaires dont la surpopulation est avérée.
Selon le dernier rapport de la Commission nationale anticorruption, la justice est le troisième service le plus miné par la corruption au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Girls Get Equal, c'est la campagne qu'on a baptisée ainsi. Cette campagne est lancée au Bénin en ligne et s'étend dans tous les pays de la CEDEAO. L'objectif est de mettre fin aux inégalités entre les genres et de promouvoir un changement de comportement pour le respect des droits des filles. La correspondance de Ginette Fleur Adandé.
Nous ne sommes pas forcément différents, qu'on est tous des humains et que lorsque l'on arrive à porter ce regard sur la jeune fille que nous sommes ou les jeunes filles avec qui nous travaillons, on n'a pas forcément besoin de faire remarquer que l'inégalité soit flagrante, même si les traditions culturelles nous le favorisent pas, toujours.
Pour plan international bénin, cette campagne reste une opportunité à saisir pour que la chance soit donnée aux filles de se faire valoir. Paul Cal Frédéric, représentant résident du plan international Bénin, soutient que lorsque les filles participent aux prises de décision et sont au centre de l'action, les objectifs sont toujours atteints.
Il est temps que les choses changent, il est temps pour nous de donner une nouvelle opportunité et surtout d'établir de nouvelles règles et de créer une ère nouvelle qui permet la participation des filles ici au Bénin, à la CEDEAO, dans mon pays en Haïti ou encore dans d'autres parties du monde. Au plan, il n'y aura pas de chemin aussi long, ni de mur très haut pour que l'égalité des filles ne devienne pas une réalité ici au Bénin et ailleurs.
Le roi Gelfe, depuis sa création il y a 10 ans, s'est donné pour objectif de contribuer à l'épanouissement de la femme au sein de la société. Cette campagne digitale s'inscrit dans cette logique. Tamia Coco et Irmine Aïronton, respectivement représentants du roi Gelfe en Côte d'Ivoire et au Bénin.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est les messages qu'on a définis dans le cadre de notre campagne. Ensemble, nous avons réfléchi sur les différentes thématiques qu'on voudrait aborder dans le cadre de cette campagne et les messages. Et j'espère vraiment que ce sera une campagne qui va nous permettre d'améliorer la situation des filles au Bénin et également dans l'Afrique.
Même si les réalités socioculturelles ne facilitent pas le combat, les critiques se font aussi sur les stratégies adoptées par les associations de défense des droits des filles et des femmes. Pour Mouleroi Mouzouvi, sociologue de profession, les femmes doivent aller au-delà des clichés.
Dans cette lutte qui est un processus de longue haleine, le problème n'est pas de dire 50%, 50% parité. Responsabiliser la femme aujourd'hui est le seul moyen pour elle de s'imposer à l'homme. C'est un problème purement humain, c'est un problème purement social et il faut responsabiliser la femme. Qu'elle prenne le destin en main, qu'elle travaille.
Plan international et le roi Gelfe espère qu'au bout des 6 mois, la campagne digitale Girls Get Equal aura réussi à repousser les inégalités dont sont victimes les filles. De Cotonou, Jeanette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Le forum annuel de l'AGOA s'est ouvert hier à Abidjan et doit se terminer demain. La délégation américaine est conduite par M. Tibor Nage, qui doit se rendre aussi au Sénégal. Des pays africains éligibles à l'AGOA peuvent exporter certains produits aux États-Unis à des tarifs préférentiels. Idriss Fall a joint à Abidjan un spécialiste de l'AGOA à l'agence USAID en Côte d'Ivoire, c'est Kara Diallo.
Alors nous avons 38 pays de l'Afrique subsaharienne qui sont représentés à Abidjan pour le forum AGOA, qui se tient d'ailleurs annuellement, donc chaque année. Hier par exemple, il y a eu le forum du secteur privé où vous avez des entreprises donc de l'Afrique subsaharienne, donc des pays éligibles à l'AGOA, et des entreprises américaines qui étaient réunies au niveau de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, au niveau de la CGFI, pour pouvoir échanger sur les relations commerciales entre les États-Unis et les pays de l'Afrique subsaharienne. Ensuite, il y avait également la société civile de l'Afrique et la société civile américaine qui se sont également rencontrés toujours hier. Avec eux ont participé les femmes dans le cadre de AWEP et également les jeunes dans le cadre de Yali. Et aujourd'hui, le forum ministériel donc a commencé et durera 2 jours, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Le forum a d'ailleurs été inauguré par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Il y a des ministres et des représentants ministériels de 36 pays de l'Afrique subsaharienne qui sont en train d'échanger avec leurs homologues donc des États-Unis sur le futur des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne.
Est-ce que les États africains, particulièrement la Côte d'Ivoire ou bien le Sénégal, profitent vraiment de l'AGOA et comment?
Oui, les pays africains, comme vous les avez bien cités, deux pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, profitent de l'AGOA parce qu'ils ont la possibilité et surtout ils envoient des produits transformés à valeur ajoutée sur le marché américain et ces produits-là bénéficient d'une franchise en droit de douane dans le cadre de l'AGOA. Donc cela leur permet d'avoir une certaine compétitivité par rapport à d'autres pays qui exportent le même type de produits et qui donc n'ont pas les mêmes avantages que les pays éligibles à l'AGOA. Si je prends le cas du Sénégal qui exporte actuellement des thons transformés dans des boîtes de conserve vers les États-Unis, les taux de droits de douane sur ces conserves de thon-là sont élevés. Ça va de 35 à 40% de droits de douane et le fait que ce pays et ses produits sont éligibles dans le cadre de l'AGOA, ça leur fait un gain de compétitivité qui permet donc aux entreprises américaines d'acheter plus tôt avec ces pays éligibles à l'AGOA plutôt que vers d'autres pays.
Kara Diallo, spécialiste de l'AGOA à l'agence USAID en Côte d'Ivoire.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Émotion et colère aux États-Unis après trois fusillades en une semaine qui ont fait au moins 22 morts à El Paso au Texas, 9 morts à Dayton dans l'Ohio, après les trois morts le 28 juillet à Gilroy en Californie. Chaque tuerie a laissé de nombreux blessés et vient relancer le débat sur le contrôle des armes à feu, comme vous le dit Lionel Lunanila Gahim.
En 13 heures d'intervalle aux États-Unis, deux tireurs, dans deux incidents séparés, ont fait 30 morts et de nombreux blessés. El Paso, endeuillé, essaie de trouver des réponses sur les motivations d'un tel massacre. Il a été suivi 13 heures après par une autre tragédie à Dayton, dans l'Ohio.
Les gens criaient dans la panique et se piétinaient.
À Dayton, la police a répondu moins d'une minute après et a abattu le tireur qui a aussi tué sa propre sœur. Le pays se remettait à peine d'une autre fusillade. Le 28 juillet, à Gilroy, en Californie, trois personnes ont été tuées dans une attaque similaire. Pour El Paso, au Texas, le tireur semble avoir ciblé les Hispaniques. Greg Allen, chef de la police d'El Paso, à la frontière avec le Mexique.
Il semble y avoir un lien avec un crime de haine. Le FBI et d'autres agences fédérales vont se pencher dessus.
Le président Donald Trump a qualifié de crime contre l'humanité, appelant la nation à condamner d'une seule voix le racisme, le sectarisme et le suprématisme blanc. Le président Donald Trump, ce lundi, depuis la Maison-Blanche.
Nous devons reconnaître qu'Internet a fourni une avenue dangereuse pour radicaliser des esprits déjà perturbés et accomplir des actes déments.
Selon M. Trump, il est trop facile aujourd'hui pour les jeunes en difficulté de s'entourer d'une autre culture célébrant la violence, notamment à travers des jeux vidéo atroces et sinistres.
Nous devons faire la lumière sur les ténèbres de l'Internet et mettre un terme aux meurtres de masse avant qu'ils ne commencent.
Le président américain a ordonné dimanche que les drapeaux soient mis en berne pour les cinq prochains jours. La démocrate Nancy Pelosi et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden affirment qu'une action doit être menée pour stopper la violence. La maladie mentale, les fusils d'assaut et l'extrémisme ont pu jouer un rôle dans ces fusillades de masse, au point de devenir un sujet dans la campagne présidentielle. Beto O'Rourke, candidat démocrate originaire du Texas.
Oui, ce sont les lois sur les armes à feu. Oui, c'est la vérification des antécédents. Oui, nous devrions arrêter de vendre des armes de guerre à nos communautés. Mais je pense que nous devons également faire face à cette haine que je n'ai jamais vue de toute ma vie.
Pendant que les habitants d'El Paso font la queue pour donner du sang, beaucoup se posent des questions sans réponse, alors que le débat sur l'utilisation des armes à feu est bien relancé.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde assurée par Gisèle Morissa. À la console, Zuniak, Wojtek, dit high-tech. Eric Mandakiza était avec vous. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine sur VOA Afrique. À très bientôt. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayigouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.